La survie de l'individu, de l'espèce et de l'environnement, voilà ce qui motive l'être humain. On observera que l'ordre d'importance varie au cours de la vie. Qu'est-ce qui réclame le plus d'attention à un âge donné? Le temps qu'il fait? L'état de la digestion? Éprouve-t-il, ou elle, réellement quelque chose pour moi? Tous ces appétits variés que la chair est capable de ressentir et peut raisonnablement espérer satisfaire. Quelles autres choses pourraient avoir de l'importance? Ahuinori, la voix de Leto II, d'Arès Balat. Miles Tegg se réveilla dans l'obscurité pour s'apercevoir qu'il était porté sur une litière souple soutenue par des suspenseurs. À leur faible rayonnement, il discernait l'emplacement des petits globes de suspension alignés au-dessus de sa tête. Il y avait un bâillon dans sa bouche. Ses mains étaient soigneusement liées dans son dos. Il ne lui avait pas bandé les yeux. Il ne se soucie pas de ce que je peux voir. Qui ils étaient, il n'en avait pas pour l'instant la moindre idée. Les mouvements sautillants des silhouettes sombres qui l'entouraient suggéraient qu'ils étaient en train de descendre une pente ardue. Un sentier de montagne? La litière suspendue ne transmettait aucun chaos. Il entendait seulement le léger bourdonnement des suspenseurs quand son escorte s'arrêtait momentanément pour franchir un passage difficile. De temps à autre, au détour d'un obstacle, il apercevait une lumière qui clignotait devant eux. Ils pénétrèrent bientôt dans la zone éclairée et s'arrêtèrent. Tegg aperçut un brilleur isolé à 3 mètres environ au-dessus du sol, amarré à un poteau, oscillant légèrement sous l'effet de la brise glacée. À la lumière jaune qu'il diffusait, Tegg distingua les contours d'une cabane au centre d'une clairière, où la neige sale et boueuse portait de multiples traces de pas. La clairière était entourée de quelques buissons et d'arbres espacés. Quelqu'un dirigea le faisceau d'une lampe vers son visage. Aucune parole ne fut prononcée, mais quelqu'un fit un geste en direction de la cabane. Tegg avait rarement vu une construction aussi délabrée. Elle semblait sur le point de s'écrouler au moindre contact. Il était prêt à parier que la toiture fuyait. Une fois de plus, la litière se mit en mouvement pour se rapprocher de la cabane. Il put étudier de plus près son escorte. Les visages étaient emmitouflés jusqu'aux yeux dans des fourreaux qui ne laissaient voir ni la bouche ni le menton. Même les cheveux étaient dissimulés par des capuches. Les vêtements étaient épais et cachaient tous les détails de leur configuration physique, à l'exception de l'articulation générale des bras et des jambes. Le brilleur amarré au poteau s'éteignit. La porte de la cabane s'ouvrit, illuminant une partie de la clairière. On le poussa brutalement à l'intérieur. Il entendit la porte se refermer. Après l'obscurité du dehors, la clarté était aveuglante à l'intérieur. Il scia jusqu'à ce que sa vision s'adapte au changement. Avec une étrange sensation de dépaysement, il regarda autour de lui. Il s'attendait d'abord à ce que l'intérieur de la cabane corresponde à son extérieur, mais il se trouvait dans une pièce impeccable, presque dépourvu de mobilier. Il y avait 3 chaises, une petite table et... Il étouffait une exclamation de surprise. Une sonde ixienne. Il n'avait donc pas senti son haleine saturée de chéré? S'ils étaient ignorants à ce point, qu'ils utilisent donc la sonde. La souffrance serait atroce pour lui, mais il ne tirerait rien de son cerveau. Quelque chose cliqueta derrière lui et il entendit un mouvement. 3 personnes pénétrèrent dans son champ de vision et se rangèrent au pied de la litière. Ils le regardèrent en silence. Tegg les observa tour à tour. Celui qui était sur sa gauche portait une combinaison sombre au revers écarté. De sexe mâle, il avait ce visage carré que Tegg avait souvent remarqué chez les natifs de Gameux. Ses yeux ronds et petits semblaient regarder droit à travers Tegg. Ce visage était celui d'un inquisiteur. De quelqu'un que les souffrances des autres laissaient parfaitement indifférent. Les Harkonnen en avaient importé de nombreux spécimens dans leur temps. c'étaient des êtres tendus vers un seul but, capables d'infliger n'importe quelle douleur sans le moindre changement d'expression. Celui qui se trouvait juste au niveau des pieds de Teg avait d'épais vêtements noirs et gris, analogues à ceux de l'escorte, mais le col fourreau était baissé, et la capuche rejetée en arrière pour révéler un visage lisse surmonté de cheveux gris coupés courts. Ni le visage ni les vêtements ne donnaient d'indication précise. Impossible même de dire si celui-ci était mâle ou femelle. Teg enregistra mentalement ses traits, front large, menton carré, grands yeux verts au-dessus d'un nez à l'arête tranchante, petite bouche plissée en une moue de dédain. Le troisième retint plus longtemps son attention. Grande taille, combinaison noire de bonne coupe sur laquelle était passée une austère vareuse également noire, le tout impeccablement ajusté. Matériau coûteux, ni décoration ni insigne, mâle sans le moindre doute. Il affectait une expression d'ennui et cela permit à Teg de lui accoler une étiquette. Visage étroit, hautain, yeux marrons, lèvres fines. Mais surtout, il s'ennuyait. Comme il s'ennuyait. Tout ce qui se passait ici était pris sur son temps précieux. Des affaires bien plus urgentes l'appelaient ailleurs, et les deux autres, ces vulgaires subalternes, ne semblaient pas encore l'avoir bien compris. Celui-là, se dit Teg, est l'observateur officiel. Il avait été envoyé ici par les maîtres de ces lieux pour observer et rapporter ce qu'il avait vu. Où était sa mallette? Ah oui, elle était là, posée contre le mur derrière lui. Ses mallettes étaient de véritables badges pour les fonctionnaires de sa sorte. Au cours de sa tournée d'inspection sur Gameux, Teg les avait remarquées dans les rues d'Issaï ou des autres cités de la planète. Les mallettes étaient de différentes tailles. Plus le fonctionnaire était important, plus la mallette était fine et étroite. Celle qui était posée ici contre le mur devait à peine contenir quelques bobines et un petit œil comme. Un fonctionnaire comme celui-ci ne se séparait jamais de l'œil qui lui permettait de communiquer avec ses supérieurs. La mallette était minuscule. Ce devait être quelqu'un de très haut placé. Il se prit à se demander quelle serait la réaction de ce personnage s'il lui demandait soudain « Qu'allez-vous leur dire sur mon stoïcisme ?» La réponse était déjà inscrite dans ce visage agacé. Il ne répondrait même pas. Il n'était pas là pour répondre. Quand celui-là s'en ira, songea Teg, il marchera à longues enjambées, ses pensées déjà loin devant lui, en un lieu où lui seul sait à quelle puissance il devra rendre compte. Et il fera claquer cette mallette contre sa cuisse pour se rappeler sa propre importance et pour attirer l'attention des autres sur ce symbole de son autorité. La silhouette emmitouflée au pied de la litière de Teg parla d'une voix assurée et vibrante, nettement féminine. « Vous voyez comme il se contient tout en nous observant ? Le silence n'aura pas raison de lui. Je vous l'ai déjà dit avant, vous nous faites perdre notre temps, et nous n'en avons pas beaucoup à gaspiller dans ces enfantillages. » Teg la dévisagea. Il y avait dans sa voix quelque chose de vaguement familier, quelque chose d'imposant qui rappelait les révérendes mères. Comment était-ce possible? L'inquisiteur, probablement originaire de Gameux, hocha la tête.
« Vous avez raison, Mater, mais ce n'est pas moi qui donne les ordres ici. »«
Mater ?» répéta mentalement Teg. « C'est son nom ou son titre ?» Les deux qui venaient de parler se tournèrent vers le fonctionnaire. Celui-ci se baissa vers sa mallette, d'où il sortit un petit œil comme. Il se détourna de manière que l'écran ne soit apparent ni à ses compagnons ni à Teg. L'œil se mit à luire d'un éclat vert qui fit jouer des reflets livides sur le visage de celui qui le tenait. Son sourire supérieur disparut. Il remua silencieusement les lèvres, uniquement à l'intention de la personne avec qui il communiquait par l'intermédiaire de l'œil. Teg ne laissa pas voir qu'il était capable de lire sur les lèvres. Tous ceux que le Bene Gesserit avait formés en étaient capables, sous n'importe quel angle ou presque. Cet homme s'exprimait dans un idiome apparenté à l'ancien galaque. « C'est bien le Bachar Miles Teg, disait-il. Je l'ai identifié de manière certaine. » La lueur verte dansait sur son visage tandis qu'il fixait l'œil. Son interlocuteur devait s'agiter frénétiquement si cette lueur avait une signification quelconque. De nouveau, les lèvres du fonctionnaire entrèrent silencieusement en action. Personne ici ne doute qu'il ait été conditionné contre la douleur. Son haleine sent le chérer.
Il s'interrompit tandis que la lueur verte se remettait à danser sur son visage.
« Je ne cherche pas d'excuses, » reprit-il en articulant soigneusement ses mots. « Vous savez bien que nous ferons l'impossible. Mais permettez-moi de vous recommander instamment de multiplier les autres moyens mis en œuvre pour retrouver le Gola. »
La lueur verte s'éteignit. Le fonctionnaire accrocha l'œil à sa ceinture, se tourna vers ses compagnons et inclina une fois la tête.
« La sonde T, » dit la femme.
Ils firent passer la sonde à proximité de la tête de Teg. « Elle appelle cela une sonde T, » se dit-il en examinant le casque qu'il faisait descendre sur sa tête. Il ne portait aucune marque d'identification Xienne. Teg éprouva une étrange impression de déjà-vu. Il avait la sensation que sa captivité ici s'était déjà produite un grand nombre de fois. Ce n'était pas une scène unique, mais tout un environnement familier, le prisonnier, l'interrogatoire, les trois personnages, la sonde. Il se sentait incapable de réfléchir. Comment aurait-il pu avoir connaissance d'une scène pareille? Il n'avait jamais personnellement utilisé de sonde Xienne, bien qu'il en connût parfaitement l'emploi et l'usage. Le Bene Gesserit avait souvent recours à la douleur, mais préférait compter dans de telles circonstances sur ses diseuses de vérité. En réalité, les sœurs redoutaient surtout d'utiliser des équipements qui pouvaient les rendre un peu trop dépendantes de leurs fournisseurs exiens. C'eût été de leur part un signe de faiblesse, l'aveu qu'elles ne pouvaient se passer de vulgaires machines. Teg soupçonnait la présence dans leur attitude de certains relents du djihad butlerien, qui prenaient la révolte contre les machines capables d'imiter dans leur essence les pensées et les souvenirs des humains. Une impression de déjà-vu. La logique mentat exigeait de lui la réponse à cette question. Comment puis-je avoir connaissance de ce moment? Il savait très bien qu'il n'avait jamais été prisonnier avant. L'idée était même grotesque dans sa manière d'inverser les rôles. Le grand Bachar Miles Teg, prisonnier, il en souriait presque. Mais l'impression d'avoir déjà vécu cette scène n'en persistait pas moins. Une fois le casque en position au-dessus de sa tête, ils commencèrent à fixer un par un sur son crâne les fils qui faisaient ressembler l'appareil à une méduse. Le fonctionnaire regardait travailler les deux autres en laissant paraître de légers signes d'impatience sur son visage autrement imperturbable. Teg continuait de les observer tour à tour. Lequel des trois allait jouer le rôle du « gentil » celle qu'ils appelaient Mater, de toute évidence. Fascinant. Était-ce une autre forme d'honoré matriarche? Mais aucun des deux autres ne lui manifestait le respect auquel on aurait pu s'attendre, à ce que savait Teg, de la part des égarés. Ces gens étaient pourtant originaires de la dispersion, sauf peut-être l'homme à la figure carrée, vêtu de la combinaison marron. Teg concentra son attention sur la femme. Les cheveux gris en brosse, l'assurance tranquille des yeux verts largement espacés, le menton légèrement en avant, tout cela donnait une impression de force, presque de confiance. Elle était bien choisie pour jouer la gentille. Son visage respirait la respectabilité, mais il y avait aussi chez elle une sorte de réserve. Elle devait avoir l'habitude d'observer longuement les choses avant d'intervenir. Elle avait au moins le niveau d'entraînement du Bene Gesserit. À moins qu'elle n'ait été formée par les honorés matriarches. Ils avaient fini de connecter le casque à son crâne. Celui qui paraissait originaire de Gameux fit glisser la console de la sonde jusqu'à un endroit où tous les trois pouvaient apercevoir l'écran. Teg ne le voyait pas. La femme ôta le tampon qui bâillonnait Teg. Il ne s'était pas trompé. C'était elle qui allait lui prodiguer ses soins au bon moment. Il se passa la langue partout dans la bouche pour retrouver ses sensations normales. Son visage et sa poitrine étaient encore un peu engourdis à la suite du choc provoqué par l'étourdisseur qu'il avait terrassé. Combien de temps s'était écoulé depuis? Heureusement, à en croire la communication silencieuse du fonctionnaire, Duncan avait réussi à leur échapper. L'homme de Gameux se tourna vers l'observateur. « Vous pouvez commencer, Yar, » fit ce dernier.
Yar, curieux nom, presque Tleilaxu par sa consonance. Mais Yar n'était visiblement pas un danseur visage, ni un maître Tleilaxu. Trop corpulent pour celui-ci, et il n'avait pas les stigmates de celui-là.
Fort de l'entraînement reçu du Bene Gesserit, Teg était sûr de ne pas se tromper. Yar enfonça un contact sur la console de la sonde. Teg s'entendit grogner de douleur. Rien ne l'avait préparé à quelque chose d'aussi intense. Ils avaient réglé leur machine du diable au maximum dès le premier essai. Aucun doute là-dessus. Ils savaient qu'ils avaient affaire à un Mentat. Un Mentat était capable de faire abstraction de certaines contraintes exercées par la chair. Mais ça, c'était trop. Il ne pouvait y échapper. La douleur vibrait dans son corps tout entier, menaçant de faire chavirer sa conscience. Comment le chéré pouvait-il offrir une protection contre ça? La douleur s'estompa graduellement, puis disparut, ne laissant plus qu'un souvenir grinçant. Encore. Il lui vint soudain à l'idée que l'agonie de l'épice endurée par les révérendes mères devait ressembler à cela. Il ne pouvait en tout cas certainement pas exister de douleur plus grande. Il luttait pour demeurer silencieux, mais il s'entendait gémir et grogner. Tous les talents qu'il avait jamais acquis, aussi bien comme Mentat que comme adepte du Bene Gesserit, étaient mis à contribution pour empêcher ses lèvres de former des mots, de supplier qu'on arrête, ne fût-ce qu'un instant, ou de promettre de tout dire, à condition qu'on le laisse tranquille. Une fois de plus, la douleur s'estompa, puis revint en force.
« Assez !»
C'était la voix de la femme. Teg eut du mal à se rappeler comment elle s'appelait.
« Mater ?»
Yar parla d'une voix bourrue.
« Il est saturé de chéré, assez pour lui durer un an !»
Il désigna sa console.
« Pas le moindre signal !»
Teg respirait par brèves saccades. Cette douleur, elle continuait à augmenter malgré l'injonction de Mater.
« J'ai dit assez !»
répéta cette dernière en haussant le ton.
Quelle sincérité, se dit Teg.
La souffrance décrut, comme si chacun de ses nerfs était extirpé de son corps à vif, emportant une bribe de souvenirs cuisants.
Ce n'est pas bien ce que nous faisons là, déclara Mater. Cet homme est...
Il est comme tous les autres hommes, dit Yar. Voulez-vous que je fixe la connexion spéciale à son pénis?
Pas tant que je serai là, s'écria-t-elle.
Teg était presque convaincu par sa sincérité. Le dernier filament de douleur quitta sa chair et il demeura là avec l'impression de léviter entre ciel et terre. La sensation de déjà-vu n'avait pas disparu. Il était là tout en n'étant pas là. Il s'était déjà trouvé là et pourtant c'était impossible.
« On ne nous pardonnera pas un échec, » déclara Yar. « Êtes-vous prête à leur annoncer que nous avons encore perdu ?»
Mater secoua vivement la tête. Elle se pencha pour mettre son visage dans le champ de vision de Teg, parmi les fils de la méduse qui le coiffait.
« Bachar, je suis navrée pour ce que nous sommes obligés de faire, croyez-moi, » dit-elle. « Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, je vous en prie. Tout cela me répugne. Dites-nous ce qu'il faut absolument que nous sachions et laissez-moi rendre votre situation plus confortable. »
Teg forma un sourire à son intention. Elle était excellente. Il tourna les yeux vers le fonctionnaire attentif.
« Vous le direz de ma part à vos maîtres. Elle joue très bien son rôle. »
Le visage du fonctionnaire s'empourpra. Il fit une affreuse grimace. « Mettez-lui le maximum, Yar, » dit-il d'une voix de ténor abrupte qui ne dénotait, au contraire de Mater, aucune formation spéciale.
« Je vous en prie, » dit Mater.
Elle se redressa, mais sans perdre de vue les yeux de Teg. Ses instructeurs du Bene Gesserit lui avaient appris cela.
Observez bien les yeux. Étudiez la manière dont ils accommodent. Plus le plan focal est loin, plus l'attention se tourne vers l'intérieur.
Il fixa délibérément le bout du nez de Mater. Son visage n'était pas laid, plutôt rassé. Il se demandait à quoi son corps pouvait ressembler sous ses vêtements encombrants.
Yar, fit le fonctionnaire. L'autre ajusta les commandes de sa console et appuya sur un contact.